France Culture.
Vous êtes une habituée de la bibliothèque?
7 décembre 1967.
Oui, je
Vous êtes étudiante?
Non, je travaille.
Puis-je savoir votre profession?
Au service du cadastre.
Ah oui? Et alors, vous venez souvent à la bibliothèque?
Oui, je viens, je prépare des concours, alors j'ai des devoirs de français à faire.
C'est uniquement pour votre promotion sociale que vous venez à la bibliothèque?
Oui.
Vous n'avez pas de lecture en dehors de cela?
Oh si, je lis des romans, je prends des livres pour lire chez moi, mais...
Justement, c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que vous lisez alors pour vos loisirs?
Des romans, des livres de philosophie, de psychologie surtout. J'aime beaucoup la psychologie.
Dépenseriez-vous par exemple l'argent, disons, d'un corsage, d'une robe, d'une paire de souliers à l'achat de livres? Vous priveriez-vous d'une paire de souliers?
Si j'en avais vraiment besoin d'une paire de souliers,
non. Je ne parle pas d'en avoir besoin, mais disons un superflu parce qu'elle vous plaît. Une jolie paire de souliers, j'ai envie de l'acheter, mais il y a ce livre. Que feriez-vous?
C'est plus agréable de...
Vous n'osez pas dire que vous choisiriez les souliers. Hein.
Non, je ne sais pas.
Je crois que c'est ça.
Oh non, peut-être pas.
La lectrice.
Celles qui lisent, une série documentaire d'Hélène Goutani, réalisée par Anne Pérez. Épisode 5, les femmes à l'assaut des bibliothèques. Car même à la bibliothèque, celles qui lisent se retrouvent réduites au chiffon. Et encore, faut-il y avoir accès. Les lectrices y sont entrées sur la pointe des pieds, par la porte dérobée, une par une. Leur arrivée silencieuse, mais bien massive, va profondément bouleverser le rapport du public au savoir. Présentes à tous les étages, les dames de bibliothèque établissent, construisent et renforcent au fil des décennies le devoir de transmission de la lecture qu'elles se sont données.
Dans les règlements de la Bibliothèque nationale, je n'ai jamais vu indiquer, où que ce soit, qu'une femme ne pouvait pas y avoir accès.
Isabelle Matamoros, historienne.
Il n'en reste pas moins que très peu s'y rendaient pour tout un tas de raisons essentiellement symboliques qui voulaient que finalement une femme ne pouvait pas se rendre seule en bibliothèque. Enfin, une femme comme il faut. Et les ordres de grandeur donnent à peu près entre 3 et 5% de fréquentation du public féminin à la Bibliothèque nationale dans la première moitié du XIXe siècle, ce qui va très largement changer lorsque la Bibliothèque nationale va ouvrir une salle de lecture publique. Effectivement, il faut imaginer entrer dans une bibliothèque ou dans une salle de lecture où la plupart des lecteurs sont des hommes, qui vont lever un regard un peu soupçonneux, voire irrité. Il y a là de nombreuses caricatures qui montrent justement ces lectrices qui viennent perturber les salles de lecture publiques. Des caricatures, je pense à Honoré Daumier ou à Gustave Doré, qui en ont fait des très belles. Donc voilà, il y a déjà le poids du regard que portent les lectorats masculins qui sont réputés être des savants. Ce ne sont que les savants, ce ne sont que les hommes instruits et d'une certaine éducation qui se rendent en bibliothèque. Donc ils regardent d'un mauvais œil la présence féminine. Donc ça, c'est un premier obstacle. Il y a un deuxième obstacle qui est que les femmes possèdent peu les codes propres au système de la bibliothèque. Elles ne savent pas lire un catalogue, ne savent pas s'y retrouver dans un rayon. Donc tout ça constitue des barrières symboliques extrêmement fortes, alors même qu'il n'y a aucun texte juridique qui empêche les femmes de se rendre en bibliothèque. Mais elles vont mettre vraiment beaucoup de temps à se sentir légitime. Une femme, par exemple, comme Sophie Uliac-Trémadeur, une autrice de littérature pour jeunesse qui possède une très bonne réputation à l'époque. Elle gagne plusieurs prix de littérature, etc. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a une certaine célébrité. Eh bien, lorsqu'elle a besoin de livres pour écrire l'un de ses romans, elle souhaite en emprunter à la Bibliothèque nationale. Et le conservateur de la bibliothèque de l'Arsenal, là, qui est Alexandre Duval, qui est l'un de ses amis, lui rétorque qu'il va lui faire parvenir ses livres chez elle, ou chez lui, dans son bureau, parce que il faut quand même qu'elle comprenne qu'à 37 ans, elle n'a pas vraiment l'âge d'aller en bibliothèque.
À la Bibliothèque Sainte-Geneviève, à Paris, en 1894...
Isabelle Antonouti, conservatrice honoraire
des bibliothèques et historienne.
Une étudiante demande d'être admise aux séances du soir de la bibliothèque. Mais le conservateur lui refuse l'accès. On craint que la bibliothèque ne devienne un lieu de rendez-vous. La demande, quand même, interroge les conservateurs. Alors, ils se posent des questions, ils cherchent des réponses. Est-ce qu'on ne pourrait pas ouvrir une salle adaptée pour les femmes ? Est-ce qu'on ne pourrait pas les assimiler aux jeunes de moins de 18 ans, qui, eux, sont interdits ? Et finalement, c'est en 1899, donc 5 ans plus tard, que le ministre de l'Éducation autorise une expérience. Une autorisation est accordée à toute jeune fille offrant les garanties suffisantes de bonne tenue. Donc il s'agit de l'entrée des dames aux séances du soir de la bibliothèque Sainte-Geneviève.
Non, cher lecteur, celui qu'il faut combattre, ce n'est ni le prêtre, ni le franc-maçon, ni l'ouvrier, ni l'artiste, ni l'avocat. C'est ce triste type que l'on rencontre partout, le misogyne. Une de nos lectrices, ayant eu la témérité de franchir le seuil de la bibliothèque Sainte-Geneviève pour demander simplement un renseignement, a été immédiatement invitée à rebrousser chemin. Quel peut être le motif de cet ostracisme ? Serait-ce le danger auquel Adam est exposé en face de Ève ? Voyons, messieurs, pas de fausse morale. Vous ne gênez que les femmes sérieuses qui viennent travailler ou se renseigner. Camille Bellilo, La Fronde, 5 mars 1898.
Ce qui est très intéressant dans ces transformations du monde des bibliothèques que connaît le début du 19e siècle, c'est qu'il y a un autre acteur à côté de l'État qui va jouer un rôle extrêmement important, c'est l'Église. Parce que l'Église catholique, dès les années 1820, met sur pied l'œuvre des bons livres, chargée de diffuser la bonne lecture auprès de ses fidèles. Et pour diffuser sa bonne lecture, elle va à la fois publier les bons romans, selon la morale catholique, mais elle va également offrir aux fidèles un lieu pour venir emprunter ses bons livres. Ce lieu, ça va être la bibliothèque paroissiale, dont les premières ouvrent à Bordeaux, mais aussi par exemple à Lyon, d'abord dans les grandes villes. Et ce réseau de l'œuvre des bons livres va essaimer partout en France, au milieu du 19e siècle, jusqu'à devenir un lieu de fréquentation assez important. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'Église catholique, à travers l'œuvre des bons livres, a compris très tôt l'importance des lectrices dans le processus de diffusion de la bonne lecture. Parce que ce sont les femmes qui sont les premières instructrices des enfants. Donc ce sont elles qui vont leur mettre sous les yeux les bons livres, mais elles vont également servir à moraliser leur mari, si besoin il y a. Et donc l'Église catholique ne va pas hésiter un seul instant à s'appuyer sur les femmes dans les bibliothèques paroissiales. On trouve même dans certaines bibliothèques les premières femmes qui sont auxquelles on demande vraiment de tenir la bibliothèque, alors sous contrôle du curé, sans aucune qualification, certes, mais quand même. Alors que les bibliothèques municipales sont très peu fréquentées et encore moins par les femmes, les bibliothèques paroissiales vont avoir une politique, si on peut dire, à destination du lectorat féminin, en par exemple ouvrant certains jours spécifiquement aux femmes ou en leur donnant la gratuité dans l'accès aux bibliothèques.
L'accès des femmes à l'éducation n'est pas très simple. Leur arrivée dans le monde éducatif s'accélère par les lois qui organisent surtout l'accès à l'enseignement supérieur à la fin du 19e siècle. Donc leur présence, elle progresse de manière exponentielle. 3% du total des étudiants en 1900, alors 12% en 1910 et 28% dans les années 30. Une date importante, en 1924, la standardisation des programmes dans les lycées qui permet l'obtention d'un baccalauréat identique pour les deux sexes. C'est une étape importante parce que dans l'esprit de la loi de Camille C. de 1880, il avait surtout l'ambition de relever le niveau intellectuel des femmes pour leur faire accéder à l'enseignement supérieur. Instruire, mais pas former à un métier. Instruire pourquoi ? Pour suivre l'éducation de ses enfants, parler en société et aussi suivre la carrière de son époux.
Mademoiselle Pelchet était une brave fille, très riche et très charitable, faisant le bien, d'ailleurs sans ostentation, très simple, le train très modeste, son cœur à elle était resté mort. Et elle est morte en état d'innocence. Du reste, elle était fort laide, ou plutôt pas jolie du tout, et n'ayant rien, comme beaucoup de femmes savantes, qui donna envie de lui manquer de respect. On n'a que du bien à en dire. C'est une biographie des plus simples, et sa mémoire est tenue en honneur à la Bibliothèque nationale. Lettre de M. Jules Trouba, conservateur à la Bibliothèque nationale, 1901.
Le rôle des femmes a été largement oublié, minimisé, puisque paroles et pouvoirs ont été accaparés par les hommes dans les bibliothèques. Donc je rappelle qu'aujourd'hui, donc dans les années 2020, environ 90% des femmes sont des bibliothécaires, mais qu'au 19e siècle, il n'y avait aucune femme dans les bibliothèques et qu'elles n'arrivent que progressivement à partir des années 20. Donc leur identité avait été oubliée. Au congrès pour le travail des femmes en 1899, on évoque aussi les bibliothécaires dans le monde et on en identifie au Canada, en Australie, en Afrique du Sud. Par contre, pour la France, un seul nom est cité, c'est celui de Marie Pelechet. Alors, Marie Pelechet est une bénévole, en fait, et elle n'a jamais été employée par la Bibliothèque nationale. Elle a été nommée bibliothécaire honoraire en 1899 en remerciement de ses services rendus bénévolement. Alors, on trouve des traces de femmes dans les archives et les mémoires des établissements, dans les rapports des inspecteurs généraux, hein, qui indiquent qu'une femme peut travailler, mais il y a souvent pas son nom. Ce métier, il est quand même assez rapidement pensé comme un débouché honorable pour les jeunes filles. On pense que les femmes sont parfaites pour le service de prêt qui demande des figures aimables.
Le bibliothécaire est un savant dont la mission est d'être le serviteur des autres savants. Ce rôle subordonné convient mal à la fierté naturelle de l'homme. Ce savant souffre d'être le serviteur des autres. Naturellement plus souple, plus docile, plus complaisante que l'homme, la femme ne se sentirait pas humiliée de servir, de jouer à la bibliothèque le rôle qu'elle joue dans son ménage. Elle accomplirait avec joie et le sourire aux lèvres les fonctions modestes qui ne conviennent pas à l'autre sexe. Il ne s'agit pas, évidemment, nul ne le propose, de porter atteinte aux situations acquises qui doivent être respectées, mais procéder méthodiquement au remplacement progressif du personnel masculin par un personnel féminin dans les bibliothèques publiques. Antoine Bonnefoy. Place aux femmes, les carrières féminines administratives et libérales, 1914.
Les femmes, elles sont donc destinées à des métiers qui prolongent et complètent leur mission fondamentale de mère et d'épouse. Donc des métiers qui impliquent des qualités de dévouement, d'attention, de précision, d'amabilité, comme préposé des postes, infirmière, dactylographe, ou bibliothécaire. Michel Perrault a appelé ces nouvelles professions qui émergent des métiers de femmes pour définir toutes ces tâches au fur et à mesure qui sont demandées aux femmes. Alors dans les bibliothèques, c'est quoi? C'est la masse de tâches dites bibliotechniques. Copier des fiches, placer, évidemment s'occuper des bibliothèques pour la jeunesse et s'occuper de l'accueil des publics.
20 ans à peine, Mademoiselle Joly n'est pourtant pas une débutante, et si elle a triomphé au concours fort sérieux qui précéda sa nomination, c'est qu'elle a acquis les qualités nécessaires à la fonction qu'elle remplira certainement avec toute la précision et l'érudition aimable qui sont de tradition dans cette belle bibliothèque de Versailles. Nous avons constaté avec plaisir que Mademoiselle Joly avait une conception très heureuse et très moderne du rôle de la femme dans le domaine intellectuel. Et féministe tout en sachant rester féminine, et c'est la meilleure manière d'être femme, Mademoiselle Joly ajoute « Pourquoi les femmes n'auraient-elles pas leur place tout indiquée au milieu des rayons d'une bibliothèque? Pourquoi laisserait-on toujours à la science cet appareil poussiéreux, lugubre, alors qu'on peut la rendre à la fois attrayante, vivante et gaie ?» Prenons exemple sur les bibliothèques anglaises. Déjà une soixantaine de femmes occupent des situations analogues. Et, dans un sourire, le sourire du livre, Mademoiselle Agnès Joly s'échappe pour recevoir les nombreuses félicitations dont elle est l'objet. G. Le Grand d'Alix, Les Côtes Paris, 1929.
Il faut rappeler que la seule école qui existait à cette date, donc en 1920, pour se former au métier de bibliothécaire, c'était l'école des Chartes. Donc l'école des Chartes, elle s'ouvre aux femmes en 1906. En 1930, elles vont quasiment être majoritaires. Et d'ailleurs, l'école s'inquiète de cette féminisation. Le conseil de perfectionnement s'interroge même sur une modification des concours d'entrée pour limiter le nombre de jeunes filles.
L'école de Chartres semble menacée par une crise grave. Le recrutement féminin croissant, le nombre décroissant des candidats aux fonctions départementales, autant de sujets de préoccupation. Il faut rechercher les causes de cette crise prochaine pour en conjurer les effets. Charles Schmitt, inspecteur général des archives et des bibliothèques, qui se qualifie chartiste dissident dans une lettre ouverte au Conseil de perfectionnement. 1920.
Alors, il y a une initiative américaine qui, après la Première Guerre mondiale, va accélérer le changement. Jessie Carson, qui est donc une bibliothécaire new-yorkaise qui vient en France, elle dit « Les bibliothécaires doivent être des femmes cultivées et instruites. Or, en France, les femmes de milieu cultivé n'exercent pas de profession. Et jusqu'à présent, aucune carrière ne leur était ouverte. Le travail dans les bibliothèques du comité américain a développé ses carrières. En 1923, une école de bibliothécaires s'installe rue de l'Élysée à Paris. Et là, les enseignements sont ciblés, sont très professionnels. Ils forment près de 200 étudiants et parmi ces élèves, les femmes sont vraiment majoritaires. Yvonne Audon, elle a étudié à l'école des bibliothécaires, entre guillemets, américains. En 1929, elle prend la charge de la bibliothèque du musée du Trocadéro. Donc, c'est un grenier, sans chauffage, qui regroupe quelques milliers de livres qui sont pas triés, entassés dans des armoires. En même temps, se met en place le projet du Musée de l'Homme et elle est chargée de créer une nouvelle bibliothèque qui devra ouvrir en 1937. Son organisation est tout à fait innovante parce qu'elle crée une bibliothèque qui est à la fois spécialisée et publique, qui est en libre accès et avec une classification thématique. Et elle propose aussi une photothèque. Donc, c'est le début du multimédia.
Chut ! Un peu de silence. Je vois pas ce qu'une bibliothécaire a de si effrayant.
Le souvenir sur Jeanne Dupic, directrice de la bibliothèque de Rouen, souvenir qui date certainement des années 50, reprend tous les préjugés sur la bibliothécaire. Le chignon, les lunettes, l'habillement, la sévérité, la vieille fille, le silence, la maniaquerie et même une certaine folie. Cette représentation austère est largement diffusée et donc c'est la bibliothécaire avec son chignon, ses lunettes, perché, raide, qui dit chut.
J'ai dit un peu de silence.
Elle force sa voix, elle devient tatillonne, tyrannique. Ces nouvelles managers, en fait, elles déplacent un plafond de verre et je pense qu'elles sont obligées de sévir pour être écoutées, reconnue.
Germaine, oh, vous êtes sublime. Une limace dans un écrin. Une nouvelle coupe. Sans blague, vous êtes rayonnante. C'est quoi? Un léger trait sous la paupière, des UV. Un grand lifting avec des tendeurs, un décollement de racines. Ça vous donne un air tellement, mais tellement, tellement...
Madame Dupic avait une réputation de dragon. Elle était une personne très sévère, avec un chignon et un immense trousseau de clés autour du cou. Nous devions nous adresser à Mademoiselle Dupic à la troisième personne. « Mademoiselle peut-elle me recevoir ?» il était interdit de parler entre nous, elle ne faisait confiance à personne. Le veilleur de nuit était surveillé dans ses rondes. Elle prenait une lampe de mineur, et à 3 heures du matin, ils se retrouvaient tous les deux à se faire peur au coin d'un rayonnage. À part cela, elle avait tout de même de bon côté. Elle me permettait, chose assez incroyable maintenant, de sortir le soir un livre qui contenait des estampes japonaises. Brigitte Lelièvre, employée à la bibliothèque de Rouen.
Je suis vraiment flattée. Devinez quoi ? Vous n'avez pas remis vos rapports hier soir.
Mais si, j'ai... Non, même pas tout petit.
Je ferme le rideau trop tard.
Mélodie.
Le soir, ils arrivèrent près d'une forêt où ils décidèrent de passer la nuit.
Merci. Ça va être l'heure, on va aller à la bibliothèque. C'est une surprise. On va aller à la bibliothèque.
Alors elles vont surtout accompagner par exemple le mouvement des bibliothèques jeunesse. Parce que ce sont surtout les femmes qui sont à l'œuvre dans la création de bibliothèques pour les enfants qui vont se démultiplier à partir des années 50. Ce sont les bibliothécaires qui redécouvrent le conte avec l'heure du conte qui se met en place un peu partout. Les bibliothécaires, elles vont aussi œuvrer pour la reconnaissance de la littérature de jeunesse, certaines en créant des prix, en travaillant aussi sur des collections, en achetant, en faisant aussi exister de manière plus importante ce pan de l'édition.
Cet envol de briques roses est le ravissant clocher de l'église de Rieux-Volvestre. Devant la mairie s'arrête périodiquement ce camion. Il vous intrigue, mais tous les habitants de Rieux-Volvestre savent que les lourdes caisses que l'on en débarque contiennent des mois de distraction. Ce sont des livres. Des livres que Madame Blanc et son assistant ont choisis pour eux. Nous allons savoir d'où viennent et comment sont appréciés ces livres du bibliobus rural.
Il y a un mouvement qui est peut-être moins connu, mais important, c'est tout le mouvement aussi de la lecture rurale. À partir de 1945, on crée des bibliothèques centrales de prêt qui ont pour mission de mettre en place des bibliobus qui vont circuler dans les campagnes. Et ces bibliothèques centrales de prêt, elles vont majoritairement être tenues par des femmes. Je peux vous citer l'exemple de Cécile de Lamotte à Périgueux qui, dès 1938, elle veut mettre en place une lecture circulante. Elle a été en Angleterre, au Danemark, en Hollande, et elle a envie de diffuser un système de prêt dans les campagnes. Alors, dans les écoles, bien sûr, mais aussi en faisant un dépôt à la mairie et en s'installant sur la place du village. Et donc, elle crée l'association Lecture en Dordogne pour, je cite, « développer l'amour de la lecture ». Et pendant toute la durée de la guerre, elle bénéficie d'une ambulance militaire qui va faire office de bibliobus.
Ici, à Rieux-Volvestre, vous passez tous les combien ?
Nous passons tous les 6 mois. Nous reprenons les livres déjà lus et nous en laissons un nouveau contingent qui est à peu près de 200 volumes pour les seuls adultes.
Alors, vous déposez vos caisses et vous partez.
Et nous partons. Nous confions ces caisses à notre responsable de dépôt qui est ici.
Monsieur, depuis quand êtes-vous responsable de ce dépôt de livres ?
Madame, depuis 1949.
Et depuis 14 ou 15 ans, il vous en manque beaucoup ?
Un seul, qui était le Rossignol de l'ombre de Sandy. Un livre en 14 ans, madame.
Et ce Rossignol, il vraiment reste dans l'ombre.
Il est resté dans l'ombre tout le temps.
À partir des années 60, il y a vraiment tout un certain nombre de femmes qui sont engagées aussi, souvent politiquement, plutôt à gauche, et qui vont s'emparer de la modernisation des bibliothèques, donc rénovation des espaces, hein, les bibliothèques qui s'ouvrent avec des espaces vitrés, des bibliothèques qui sont en centre-ville, qui ont des collections qui sont des collections multimédia, une large ouverture à la jeunesse, l'accueil des bébés lecteurs jusqu'au travail avec les adolescents. Il y a une multiplicité d'actions qui se mettent en place à partir des années 60, 70. Donc vraiment, hein, des militantes de la lecture publique avec, bon, l'idée, hein, voilà, c'est la bataille du livre. Il faut maîtriser l'objet livre, il faut maîtriser cette compétence pour pouvoir s'élever socialement. Ça fait partie du socle. Donc c'est aussi la création des réseaux de bibliothèques. Hein. Enfin, il y a plein de bibliothèques qui vont se créer dans les quartiers au plus près de la population. Et à l'époque, il y a un certain nombre de femmes qui deviennent directrices de bibliothèques parce qu'à partir des années 60, 70, hein, les femmes sont majoritaires dans les bibliothèques.
On écoute Sophie.
On va faire quelque chose qui est autour de l'art, de la peinture, voilà. Oui, oui, allez-y, vous savez où accrocher les vestes, comme vous veniez aussi déjà les années précédentes.
La lectrice, l'électrice.
C'était Celles qui lisent, épisode 5, à l'assaut des bibliothèques, avec Isabelle Matamoros et Isabelle Antonouti. Lecture de Pascaline Bonnet, Henri Alexandre et Raphaël Laloum. Prise de son, Sandrine Malon, Éric Villenfin et Virginie Lorda. Mixage, Éric Boisset. Documentation, Anne-Lise Signoret, Antoine Huilloz. Archivina, Mylène Touchet. Chargée de programme, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin. Celles qui lisent, une série documentaire d'Hélène Goutani et Anne Pérez.